Radio FM+ vous propose votre rendez-vous avec la Margelle.
Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous et merci pour cette invitation. Merci à la Margelle pour de m'avoir sollicité pour échanger, pour parler d'abord sur la laïcité et le protestantisme, qui, je l'avais intitulé cette conférence, Une liberté de conscience en héritage. Alors tout d'abord, quand on m'a proposé de parler de laïcité et de protestantisme, je dois dire que c'est des sujets qui, tous les deux, me tiennent profondément à cœur, puisque déjà la laïcité, bien sûr, elle a guidé beaucoup de mes engagements, associatifs comme professionnels, vous l'avez rappelé, et le protestantisme, parce qu'il fait partie, comme pour beaucoup ici, de mon histoire familiale et de ce qui m'a, en partie en tout cas, façonné. Ces deux thèmes sont aussi, d'une certaine manière, pour moi, une petite affaire de famille, puisque parmi ceux dont je vais parler, certains étaient des parents auxquels, je crois, nous devons beaucoup, et il me semble important à notre place d'honorer leur mémoire. Alors que la France célèbre les 120 ans de la loi du 9 décembre 1905, il importe plus que jamais de revenir à l'esprit de ce texte fondateur, un esprit de liberté, de justice et de confiance. La laïcité n'est pas un mot figé, c'est pas non plus un simple souvenir de combats anciens. Elle demeure une promesse, une exigence toujours vivante. Elle n'a jamais été conçue comme une revanche, ni comme un outil d'exclusion, mais comme un cadre d'union dans une société devenue plurielle. Ce cadre est né de siècles de tensions, de souffrances et d'espérances, dont le protestantisme fut l'un des laboratoires décisifs. Non pas qu'il ait inventé en France la laïcité, celle-ci est une œuvre collective, fruit des Lumières, de la Révolution et de la République, mais parce qu'il en a profondément inspiré, d'une certaine manière, la philosophie, la foi dans la conscience, la responsabilité individuelle, la souveraineté de l'individu, la primauté de l'esprit critique et la lecture critique du monde. La réforme, en libérant le croyant de la médiation exclusive du clergé, a préparé la voie d'une société où chacun peut penser, croire, juger, interpréter. C'est ce geste d'émancipation, né au XVIe siècle, qui irrigue encore aujourd'hui notre idée moderne de laïcité. Au commencement, il y a Martin Luther, en 1517, lorsqu'il affiche ses 80 thèses à Wittenberg, il ne se doute pas que son geste bouleversera non seulement l'ordre religieux, mais aussi les fondements de la pensée politique. Luther n'est pas un révolutionnaire au sens courant, il ne cherche pas à abattre le pouvoir, mais à restaurer la vérité de la foi, et en affirmant que le salut ne dépend pas des œuvres, ni de l'Église, ni des indulgences, mais de la foi seule, il consacre la souveraineté de la conscience individuelle. Dans son traité de l'autorité temporelle et des limites de l'obéissance, en 1523, il distingue les deux règnes, le spirituel et le temporel. Le premier relève de Dieu, de la foi, de la conscience. Aucun prince, aucun pape ne saurait y régner. Et le second concerne la société, la justice, la paix civile, et il appartient à l'autorité politique. Cette distinction est souvent résumée par la formule prêtée à Jésus-Christ, que vous connaissez, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Évangile selon Luc 20-25, c'est la réponse, vous le savez, que donne Jésus aux pharisiens et aux partisans d'Hérode qui essaient de le mettre en difficulté, c'est une sorte de piège. Si Jésus interdit de payer l'impôt, il peut être dénoncé aux Romains comme opposant. S'il invite à payer l'impôt, il apparaît au peuple comme un traître à Israël et à son Dieu. Jésus déjoue le piège en affirmant qu'il convient, selon lui, de rendre à César la monnaie qui lui appartient et à Dieu le culte qu'il est seul à pouvoir revendiquer. Même si ce propos de Jésus a pu être lu comme une défense de la séparation du spirituel et du temporel, l'Église catholique n'y voyait, elle, qu'une distinction, non pas une séparation. Pour elle, s'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, César lui est soumis et son pouvoir lui vient de Dieu. Chez Luther, il en va un peu différemment. Il élabore la théorie dite des deux règnes, qui distingue, je le disais, précisément ce qui relève de la compétence du prince et ce qui relève de celle de l'Église. Luther accomplit un autre geste tout aussi décisif. Il traduit la Bible en allemand. Pour la première fois, la parole divine devient accessible à chacun, dans sa langue maternelle. Ce geste simple, traduire, fut une forme de révolution. Il rend possible une lecture directe sans médiation cléricale et fonde ainsi une autonomie spirituelle et intellectuelle nouvelle. Lire soi-même la Bible, c'est devenu responsable de son propre rapport à Dieu, et donc déjà d'une certaine manière, citoyen de soi-même. Ce lien direct à la vérité, sans intermédiaire institutionnel, a permis de forger l'esprit critique. En s'émancipant de la tutelle ecclésiastique, elle-même liée au pouvoir en place, les croyants devenaient peu à peu capables d'interroger toutes les formes d'autorité, y compris temporelles. Et ainsi, le mouvement spirituel inauguré par Luther porta en lui la promesse d'une libération politique. La laïcité, plusieurs siècles plus tard, sera l'un des fruits de son long processus d'autonomisation de la conscience. Jean Calvin, à Genève, prolonge cette distinction entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel, mais bien moins audacieux que d'autres de ses coreligionnaires, il se refuse à la séparation moderne. Dans ses ordonnances ecclésiastiques en 1541, il organise la vie de l'Église réformée et en précise les rapports avec la cité. L'Église enseigne, célèbre le culte et exerce la discipline spirituelle, tandis que la coercition civile demeure l'affaire des magistrats. Le consistoire, instance de pasteurs et d'anciens, n'a pas le glaive en main. Il conseille, corrige, avertit. Pour autant, chez Calvin, l'État reste de fait confessionnel en ce que la cité tout entière se veut chrétienne réformée et parce que l'ordre civil doit refléter l'ordre moral voulu par Dieu, selon lui. Calvin n'est donc pas un précurseur direct de la laïcité. Il demeure un homme de son siècle, soucieux d'une société fondée sur la foi commune. Il reste qu'en distinguant les offices spirituels et civils, il esquisse lui aussi une première différenciation des pouvoirs et par là même un équilibre distinct des confusions du Moyen-Âge. Ce ferment protestant se développa largement en Europe du Nord et dans les républiques réformées. Dans les cités suisses, hollandaises, scandinaves, la conviction se répandit que la foi ne pouvait être contrainte, qu'elle devait être le fruit d'un choix. Même lorsque les États restaient confessionnels, un esprit nouveau circulait, celui du libre examen, de la lecture, de la raison. Les Lumières trouvant là un de leurs plus fertiles terreaux. C'est ainsi qu'au XVIIe siècle, un philosophe protestant français bien connu, né en Ariège et réfugié à Rotterdam, Pierre Bayle, affirme que la conscience est un guide intérieur inviolable. Dans son dictionnaire historique et critique, en 1697, il défend la tolérance universelle. Un athée, dit-il, peut être vertueux, un croyant, injuste. Bayle répond ainsi que c'est la moralité de l'action, et non la confession, qui fonde la dignité humaine. À la même époque en Angleterre, John Locke, anglican nourri de la pensée réformée, écrit en 1689 sa célèbre lettre sur la tolérance, où il affirme « Nul ne peut être contraint à la croyance par la force ». Cette tolérance, qui était néanmoins moindre chez Locke que chez Bayle, puisque lui ne tolérait pas encore les athées, néanmoins loin d'être faiblesse et reconnaissance de la dignité de l'esprit humain. Et quelques décennies plus tôt, de l'autre côté de l'Atlantique, un pasteur baptiste, Roger Williams, qu'on a souvent oublié et pourtant fondamental, fonde la colonie de Providence dans le futur état de Rhode Island. Chassé de la colonie puritaine du Massachusetts pour avoir prêché la liberté de conscience, il proclame que le pouvoir civil ne doit jamais interférer dans les affaires religieuses. Bien avant le principal rédacteur de la déclaration d'indépendance américaine et déiste Thomas Jefferson, le mur de séparation entre le jardin de l'Église et le désert du monde, écrit-il, doit protéger la foi de la contrainte du pouvoir. William fait ainsi de Providence, dès 1637, le premier territoire au monde où la séparation entre toutes les églises et l'État, telle qu'on peut l'entendre aujourd'hui, est mise effectivement en pratique. L'autorité publique y est aconfessionnelle et toutes les religions, baptistes, quakers, catholiques, juives, musulmanes, déjà évoquées à l'époque, les mahométans, y sont pratiquées librement. Ces figures protestantes, Luther, Bayle, Locke, Williams, posent les fondements d'un humanisme spirituel et politique. Le libre examen, la dignité de la conscience, la neutralité du pouvoir civil. Elles ont préparé la Révolution française et deux siècles plus tard, la République laïque. En France, les protestants avaient payé cher leur fidélité à la liberté de conscience. La révocation de l'édit de Nantes, censée être irrévocable par la cire verte du cachet d'Henri IV, en 1685, les avaient condamnés à la clandestinité, à l'exil ou à la mort. Mais ainsi, leurs descendants au siècle des Lumières seront parmi les plus ardents défenseurs de la liberté. Lors des États généraux de 1789, l'ancien pasteur nîmois Jean-Paul Rabault-Saint-Étienne, devenu député, se lève et proclame « Je ne demande pas la tolérance, mais la liberté. Ce refus du mot tolérance est essentiel, parce que tolérer, c'est encore dominer. Mirabeau disait « La tolérance, c'est le fait du prince. Celui qui tolère aujourd'hui peut demain ne plus tolérer. » Et Rabault-Saint-Étienne exige l'égalité, le respect et la liberté. C'est à lui que nous devons, pour une large part, vous le savez, même s'il aurait aimé aller plus loin déjà, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme. « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, dit le texte, pourvu qu'elles ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Quelques années plus tard, en 1795, un autre protestant, ardéchois, François-Antoine de Boissy d'Anglas, rapporteur de la Constitution de l'an 3, fera voter le décret, donc une loi pour l'époque, instituant pour la première fois la séparation de l'État et des cultes. La République n'en salarie aucun. Cette formule, reprise presque mot pour mot en 1905 dans l'article 2 de la loi du 9 décembre, est la première formulation de notre laïcité, même si le mot n'existait pas encore. L'État, donc, ne reconnaît plus de religion officielle, et aux yeux de la loi, il n'y a plus de majorité religieuse ni de minorité tolérée. Il n'y a que des citoyens égaux. Ce renversement, issu en partie seulement, de l'héritage protestant, fit de la conscience un espace inviolable et de la République le garant de cette liberté. Au XIXe siècle, l'esprit de la réforme irrigue encore profondément la vie intellectuelle et morale française. Après l'époque révolutionnaire, c'est à travers la construction républicaine et la démocratisation de l'enseignement que se perpétue cet héritage. Le protestantisme devient alors l'un des creusets du libéralisme moral et politique. On pense à François Guizot, protestant, académicien nîmois, ministre libéral de l'instruction publique sous Louis-Philippe, qui fait voter en 1833 une loi fondamentale « Chaque commune doit entretenir une école ». Ce geste, inspiré d'une foi dans la raison et le progrès, fait de l'éducation un devoir collectif. Instruire, c'est affranchir. La République, lorsqu'elle viendra, prolongera cette idée. C'est par l'école que s'émancipe la conscience, c'est par la connaissance que s'enracine la liberté. En 1826, le philosophe suisse protestant Alexandre Vinet publie ses célèbres plaidoyers pour la liberté religieuse. « La foi ne peut être sincère que si elle est libre », écrit-il. Pour lui, comme pour Williams, avant lui, bien avant lui, en donnant ne serait-ce que le moindre privilège à la religion, l'État et ses représentants deviennent les spoliateurs de Dieu lui-même. Car il faut pouvoir être librement incroyant pour pouvoir être sincèrement chrétien. Ainsi, il réclame la séparation des églises et de l'État, non par hostilité, mais pour rendre à chacun la responsabilité de sa foi. Son influence s'étendra bien au-delà des frontières helvétiques chez ses coreligionnaires. On retrouve sa pensée dans les débats français de la seconde moitié du siècle, notamment chez Ferdinand Buisson et chez le Vauverdois, donc gardois, Raoul Allier. Buisson, figure majeure de l'école républicaine, était lui-même issu de cette culture protestante ouverte. Il voyait dans la morale laïque non pas une négation de la foi, mais son accomplissement rationnel. La morale laïque, disait-il, c'est la morale du devoir, cette morale kantienne, selon laquelle l'homme, libre et raisonnable, doit agir par respect de la loi qu'il se donne à lui-même. Cette conception profondément protestante dans son essence fonda l'esprit de l'enseignement public, éveiller la conscience, non la conditionner. C'est dans ce contexte que s'engage Raoul Allier, né à Vauvert, dans le Gard, en 1862, issu d'une lignée de petite Camargue profondément attachée à la foi réformée, Allier illustre cette synthèse entre foi, raison et justice. Normalien, agrégé de philosophie, professeur à la faculté de théologie protestante de Paris, il est influencé par le christianisme social de Tommy Fallot, qui prône un engagement des croyants dans les luttes pour la dignité humaine. Et à la veille de la loi de 1905, alors que le gouvernement d'Émile Combes mène une politique d'anticléricalisme virulent, Allier s'inquiète. Il redoute que la République, en combattant l'emprise de l'Église catholique, ne se transforme elle-même en pouvoir dogmatique. Et donc, entre 1904 et 1905, après la chute d'Émile Combes, il publie alors 46 articles dans la revue Le Siècle, repris dans les cahiers de la quinzaine de Charles Péguy. Il y plaide pour une pleine liberté de conscience. La liberté de conscience ne va pas sans la liberté de culte. Et la liberté de culte n'existe plus si pour ouvrir une église, il faut l'autorisation du Conseil d'État, écrit-il. Allier promeut une séparation donc qui est libérale, juste et pacifique. À ses côtés, le député socialiste Francis de Pressensé, fils du théologien protestant Edmond de Pressensé, milite lui aussi pour une laïcité d'équilibre, respectueuse des libertés religieuses, tout comme son ami, le théologien Jean Cadenne, qui le fait auprès du président de la République, qui lui-même est alors très méfiant. Ces hommes protestants ne veulent pas une république inquisitrice, mais une république confiante. Ils influencent directement les parlementaires, et en particulier Aristide Briand, rapporteur du projet de loi, qui qualifiera la loi de 1905 de libérale, tout comme son collaborateur majeur, le haut fonctionnaire protestant gardois Louis Méjean. Après l'adoption de la loi Allier, Allier salue ce texte, porté pour l'essentiel par Briand, par Jaurès, puis au Sénat par Clémenceau, comme un grand effort de justice et de loyauté. Dans son esprit, la laïcité devait unir la conscience protestante et la raison républicaine dans une même exigence de droiture. Mais ce climat d'ouverture ne va pas sans tension. La France de la fin du XIXe siècle est traversée par ce que l'on nomme alors le conflit des deux Frances, qui se caractérise, vous le savez, par des oppositions virulentes. La question religieuse s'y mêle évidemment à la question nationale. La République, encore jeune, se heurte à des forces conservatrices qui voient dans la séparation et dans la laïcité une menace pour l'âme de la France. Et en un sens, nous le verrons, cela fait écho à la période actuelle. L'antisémitisme et l'antiprotestantisme, parfois confondus de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, se développent dans les milieux nationalistes. Des pamphlets complotistes dénoncent alors le prétendu judéo-protestantisme de la Troisième République, accusé de trahir la tradition catholique de la nation. Cette hostilité n'épargne pas les plus grands esprits. Émile Zola lui-même, alors qu'il défendra peu après la justice dans l'affaire Dreyfus, s'est parfois laissé aller à des mots durs, très durs, envers les protestants, qu'il jugeait froids, moralisateurs, sectaires. Dans son roman « Lourdes », il oppose la ferveur des pèlerins catholiques à la rigueur réformée, caricaturée comme une foi sans mystère. Dans une chronique au Figaro en 1881, il écrit « Il est un esprit plus nuisible et plus redoutable encore, c'est l'esprit protestant, qui à cette heure s'efforce de tout envahir, notre littérature, notre presse, notre politique, là est l'ennemi », écrit-il. C'est une ironie de l'histoire parce que celui qui dénoncera la haine antisémite participa à cette suspicion envers une autre minorité, le protestantisme, perçu comme une foi étrangère à la sensibilité française. Bien heureusement, Zola fut de ses esprits capables d'évoluer, et en 1898, il prit la défense non seulement des juifs, mais finalement aussi des protestants. Il reste que cette suspicion, héritée d'un long passé de conflits, a une origine connue. Le protestantisme, minoritaire, instruisait la liberté de conscience au moment même où l'ordre catholique exaltait la soumission à la hiérarchie. Et la laïcité, lorsqu'elle fut votée en 1905, mit fin à cette opposition. Elle abolit juridiquement toute distinction entre majorité et minorité religieuse. Désormais, la République ne reconnaît aucun culte. Et c'est précisément parce qu'elle ne reconnaît aucun culte qu'elle est garantie tous. La laïcité ainsi conçue n'appartient à aucune religion ou aucune conviction, mais à toutes les consciences. Elle ne supprime pas les croyances, elle les rend possibles dans leur sincérité. Car on l'a vu, comme bien des penseurs protestants l'ont dit, seule la liberté permet la foi véritable et seule la séparation permet la paix. Bien sûr, il nous faut immédiatement préciser que cette conquête, fruit de siècles de lutte et d'équilibre, ne saurait être comprise sans évoquer les autres figures qui, dans des contextes extrêmement différents, ont œuvré à la même idée, celle d'un humanisme universel. Elles sont, ces figures, d'horizons très divers, de croyances et de convictions très variées. On peut penser par exemple à l'émir Abdelkader, musulman fervent, lettré soufi et héros de la résistance à la colonisation. En 1860, à Damas, il sauva des milliers de chrétiens du massacre et il affirmait « Ce que j'ai fait en faveur des chrétiens, je l'ai fait par fidélité à la loi musulmane et des droits de l'humanité. Toutes les créatures sont la famille de Dieu, et les plus aimés de Dieu sont ceux qui sont les plus utiles à sa famille. » Sa foi profonde s'accordait avec un sens aigu de la justice universelle. Abdelkader illustre cette idée fondamentale, la spiritualité authentique n'est jamais en guerre avec la liberté. On pense aussi à Henri Sidambarum, fils d'engagé indien en Guadeloupe, qui, au début du XXe siècle, mena un long combat pour que les citoyens d'origine indienne obtiennent les mêmes droits et la même considération de l'État. Son combat laïque et républicain montrait que la liberté de conscience ne vaut que si elle s'accompagne d'égalité civique. On peut encore citer Olympe de Gouges, plus en plus derrière nous, Condorcet, Voltaire, Victor Schœlcher, Jean Jaurès, Louise Michel, tous croyants ou non, ont défendu, comme le protestantisme des origines, l'idée que la conscience humaine est inviolable et que le commun se bâtit dans le respect des différences. Ces figures venues d'horizons divers montrent que la laïcité n'est pas la propriété d'un camp, ni d'une tradition. Elle est la maison commune des libertés. Elle ne dresse pas des murs entre les cultures, elle ouvre les portes entre les consciences. Cependant, ce cadre laïque patiemment construit connaît aujourd'hui de nouvelles tensions. Et il faut en comprendre la nature pour en préserver l'équilibre. Oui, il est essentiel, à l'heure où nous commémorons la loi du 9 décembre 1905, de préserver l'équilibre de la laïcité que ses auteurs avaient su établir. Celui d'une république garantissant les libertés individuelles, tout en veillant toujours au bon fonctionnement collectif. Cet équilibre, pourtant, se trouve aujourd'hui fragilisé par une évolution profonde dans l'interprétation même du principe de laïcité. Depuis la fin des années 1980, particulièrement depuis ce que l'on appelle l'affaire du voile de Creil en 1989, plus nettement encore depuis les attentats islamistes à partir des années 2010, la laïcité a cessé d'être perçue avant tout comme une garantie sociale pour devenir un marqueur identitaire. Là où Jean Jaurès la définissait comme le pilier d'une république sociale, assurant des services publics laïcs accessibles à tous, son traitement dans un débat public médiocre, où tout se mélange, s'est mis à la réduire à une question de visibilité religieuse, voire d'identité. Et ce glissement n'est pas anodin. Il modifie le sens même du principe. Il transforme un cadre de liberté en instrument de suspicion. Ce n'est plus la justice qui fonde la laïcité, mais c'est la peur. Et ce déplacement en lourdes conséquences s'inscrit dans un contexte de crise sociale, de fragmentation du lien civique et de polarisation socioculturelle. Tout d'abord, la société française se trouve aujourd'hui travaillée par deux mouvements contraires. D'un côté, une sécularisation profonde. Une part croissante de la population s'éloigne du religieux, continue de s'éloigner du religieux, voire de toute référence spirituelle. C'est encore le cas aujourd'hui dans toutes les générations, génération après génération, à l'exception du seul courant protestant évangélique. De l'autre, une réaffirmation identitaire de certaines appartenances religieuses, souvent plus visibles et parfois plus revendicatives. Il s'agit donc moins d'un retour du religieux que d'un recours à la religion, dans un monde en quête de repères et de sécurisation. Ce recours à la religion peut prendre plusieurs formes. Il est parfois l'expression simple d'une croyance enfin assumée, quand la génération précédente, taisée par crainte de représailles, et qu'on vit aujourd'hui dans le respect de la loi commune. Il peut aussi traduire une quête d'identité dans une société ressentie comme excluante ou inégalitaire, ou bien constituer un refuge face à la précarité, à la stigmatisation ou à la perte de repères collectifs. Parfois encore, il relève d'un mimétisme au sein d'un environnement socialement homogène où la mixité socioculturelle a disparu. Il peut alors devenir un repli dans un groupe communautaire perçu comme protecteur et solidaire, au risque d'aggraver le clivage entre un prétendu « nous » et un prétendu « eux ». Ainsi, dans ces contextes de fragilité, la religion peut devenir un refuge, ça a été le cas dans toute l'histoire de l'humanité, et pour quelques-uns, un instrument de repli ou de revendication, lorsqu'on a recours à ces courants les plus rigoristes. Les causes sont multiples. D'abord, les confusions, souvent entretenues, entre la pratique religieuse ordinaire et le fanatisme violent, ce dernier relevant de mouvements où la théologie est d'abord prétexte à une idéologie politique. Ensuite, un passé colonial encore vivace dans l'inconscient collectif que notre société n'a jamais vraiment su affronter. S'ajoute à cela une mixité sociale et territoriale insuffisante qui nourrit les peurs, les ressentiments et les préjugés entre des populations qui ne se côtoient plus et ne se connaissent plus. Enfin, les difficultés d'organisation du culte musulman, tiraillées entre influences étrangères et générations nouvelles désireuses de s'en affranchir, laisse le champ libre, dans certains contextes marqués par le sentiment de rejet, à des courants rigoristes minoritaires, souvent soutenus par des ingérences extérieures, notamment venues de puissances du Golfe, dont l'influence financière demeure considérable. Face à cela, il règne beaucoup d'hypocrisie. La laïcité n'est évidemment pas un mot magique qu'il suffirait d'invoquer à longueur de journée pour résoudre ce qui mine notre cohésion nationale. Elle est exigeante, elle suppose du courage, celui de s'attaquer patiemment aux racines des difficultés, celui d'oser la mixité sociale et culturelle, celui enfin de reconnaître et de faire vivre toutes les cultures qui ont contribué à notre histoire commune afin de renforcer le sentiment d'appartenance à une même nation. La République, pour sa part, a le devoir de protéger ses citoyens, de prévenir les dérives et de combattre le terrorisme, mais elle doit le faire sans jamais confondre la lutte contre le fanatisme avec la défiance envers la foi. Car à tout confondre, on mine la confiance même que la laïcité exige pour fonctionner. Qui plus est, en revenant aux seules tensions religieuses, il serait en réalité réducteur de les limiter à l'islam. D'autres traditions connaissent elles aussi une visibilité accrue ou des replis conservateurs et communautaires. Certains courants loubavitch du judaïsme, de nouvelles générations catholiques séduites par le retour aux rites anciens, ou encore certains milieux évangéliques conservateurs en forte expansion. L'ensemble de ces mouvements traduit au fond une même dynamique, la recherche de sens dans un monde en perte de repères, un monde traversé par les crises, qu'elles soient écologiques, économiques, sociales, identitaires ou même parfois sanitaires. Dans les Outre-mer, la situation diffère tout de même quelque peu de celle de l'Hexagone. La religiosité y demeure plus naturellement intégrée à la vie sociale, la mixité culturelle y est tout de même plus forte, et le syncrétisme plus spontanément accepté. Et donc là-bas, la laïcité n'est pas perçue comme une contrainte, mais généralement comme une évidence du vivre ensemble. Dans l'Hexagone, en revanche, le traitement médiatique de la laïcité entretient souvent les confusions. On parle trop vite d'atteinte à la laïcité pour qualifier des faits qui relèvent d'autres domaines, le sexisme, l'atteinte à la dignité humaine, la violence sociale ou bien sûr le terrorisme qui touche pourtant à une pluralité de champs et dépasse très largement le seul champ de la laïcité. Le mot laïcité devient ainsi un fourre-tout commode, brandi comme un slogan politicien plutôt que compris comme un principe juridique, politique et philosophique. Il se charge d'affects, de peurs, d'émotions. Et le risque est alors grand de transformer un outil de paix, notre histoire nous l'a trop souvent rappelé, en un symbole de division. Or, la laïcité n'a jamais eu vocation à régler à elle seule tous les problèmes de la société. Elle n'est ni un catéchisme d'État, ni une formule magique. C'est une méthode politique et juridique, celle qui rend possible le vivre et le faire ensemble, en garantissant à chacun la liberté et l'égalité devant une administration neutre et impartiale, quelles que soient les convictions des usagers qu'elle sert. Pour rester vivante, la laïcité ne peut se limiter à l'interdit ou à la neutralité. Elle doit s'incarner dans des politiques concrètes. Et oui, elle suppose une véritable mixité sociale, car plus les gens se rencontrent, moins ils se craignent. La laïcité a été pensée pour une société plurielle. Il faut que cette société de fait reste plurielle. Comme le rappelait aussi avec vigueur un autre protestant, trop tôt disparu, le colonel Louis-Nathaniel Rossel, qui rejoignit la commune de Paris laïque, elle exige aussi une éducation civique ambitieuse, une éducation qui permette à chaque citoyen de comprendre ce qu'est la laïcité et non ce qu'on voudrait lui faire croire qu'elle serait. Ce qu'il rappelait aussi, et que Jaurès prolongera avec force, c'est que la laïcité suppose une lutte résolue contre toutes les discriminations parce qu'une république injuste ne peut prétendre à la neutralité. Promouvoir la laïcité, c'est donc promouvoir l'égalité réelle. C'est rappeler enfin que l'histoire de la France, riche de toutes ses composantes, ne saurait être enfermée dans une seule identité culturelle. Et c'est ici qu'il faut évoquer une dérive récente, celle du mythe de la culture unique judéo-chrétienne érigée en rempart identitaire contre un autre supposé menaçant. À l'origine, vous le savez, le mot judéo-christianisme désignait simplement les premiers chrétiens d'origine juive qui demeuraient attachés à la loi mosaïque. Mais dans le débat contemporain, il a pris un tout autre sens, celui d'une supposée culture commune, imaginaire, érigée en opposition aux athées, aux agnostiques, aux néo-paganistes et surtout aux musulmans. Il est devenu un outil rhétorique servant à dresser les prétendus héritiers d'une tradition supposée unifiée contre ceux que l'on considère comme étrangers à celle-ci. Or, comme l'histoire l'enseigne, cette unité n'a malheureusement jamais existé. La France n'a pas connu une civilisation judéo-chrétienne homogène, mais des siècles de division et de violence entre chrétiens eux-mêmes et entre chrétiens et juifs. Les guerres de religion, ajoutées aux massacres et persécutions sporadiques, ont ensanglanté le pays pendant près de 3 siècles. Les discriminations envers les juifs, instituées dès le XIIe siècle, ont perduré jusqu'à l'époque moderne. A-t-on oublié que Louis IX, dit Saint-Louis, et c'est lui qui a instauré, suivant les prescriptions de l'Église, l'obligation du port de la rouelle, ancêtre de l'étoile jaune, aux juifs. Quant aux protestants, ils furent longtemps tenus pour des hérétiques à exterminer. Le roi de France ne devait-il pas jurer, lors de son sacre, d'exterminer les hérétiques, cathares, vaudois, puis réformés. Et ce serment ne fut aboli qu'à la Révolution. L'antisémitisme demeure un fléau tragiquement actuel. Les actes antisémites en constante hausse depuis plusieurs années traversent toutes les classes sociales. Et il n'est d'ailleurs pas inutile de rappeler que l'expression « civilisation judéo-chrétienne » est aujourd'hui reprise par les mêmes courants politiques qui, à la fin du XIXe siècle, dénonçaient précisément ce qu'ils appelaient le judéo-protestantisme. L'affaire Dreyfus en fut le révélateur. La droite nationaliste et catholique, incarnée par Édouard Drumont, Maurice Barrès ou Charles Maurras, voyait dans les familles juives et protestantes les agents d'une anti-France républicaine. Cette inversion du vocabulaire, faire d'un ancien motif d'exclusion un mythe d'unité, montre à quel point notre mémoire historique a été déformée. Il n'y a donc plus jamais eu de culture commune judéo-chrétienne au sens où certains l'entendent aujourd'hui. Et rappelant que les inégalités religieuses ont aussi perduré dans les colonies et en Algérie, où les populations musulmanes restèrent jusqu'au XXe siècle privées des pleins droits civiques. Elles réclamaient pourtant la pleine application de la laïcité, on l'a oublié, puisque cette laïcité, et la loi de 1905 en particulier, était initialement prévue pour être appliquée dans les départements algériens, mais empêchée par l'État, qui était finalement soucieux de garder le contrôle du culte musulman pour mieux contenir toute velléité d'émancipation. Et même dans l'Hexagone, la suspicion envers certaines minorités religieuses n'a jamais totalement disparu. Il y a néanmoins eu une longue marche vers l'égalité des consciences, où juifs, protestants, catholiques, agnostiques, athées et musulmans ont chacun, à leur manière, contribuer à forger une république de liberté. Et c'est la laïcité qui, en France, en est devenue le principe d'organisation. La laïcité n'est donc pas le bouclier d'une identité figée. Elle est l'espace commun d'une identité partagée en perpétuelle évolution. Elle n'est pas une arme d'attaque ou de défense. Elle est l'outil qui permet de bâtir la maison commune. La laïcité, dont les prémices ont, en réalité, traversé toutes les grandes traditions et régions du monde, n'est pas l'héritage exclusif d'une seule culture. Elle est le fruit d'une volonté politique, née au sein d'une société devenue plurielle, celle de garantir à tous les citoyens les mêmes droits, indépendamment de leurs croyances. Elle permet de faire ensemble, dans la pluralité, sans que la foi de l'un fasse loi pour l'autre. Ainsi comprise, elle ne sépare pas pour diviser, mais pour mieux unir. Elle distingue les sphères afin qu'elles puissent dialoguer librement. Et surtout, elle fonde un pacte de confiance. Confiance de l'État envers les citoyens, confiance des citoyens envers la République. Aujourd'hui, défendre la laïcité, c'est refuser les confusions, les caricatures, les instrumentalisations. C'est en restaurer la signification première. Libérer l'État des religions, mais aussi libérer la foi de la contrainte du pouvoir, afin de rendre possible la coexistence pacifique et vivante de toutes les convictions. La laïcité, vous le savez bien, n'est pas l'ennemi du religieux, elle en est la condition de sincérité. Elle ne combat pas la foi. Elle garantit le droit de croire, de douter, de ne pas croire ou de ne plus croire. Fidèle à l'esprit de Luther, de Bayle, de Rabault-Saint-Étienne, de Boissy-d'Anglas, de Vinet, de Buisson, d'Allier, de Méjean, elle demeure le cadre vivant de la liberté de conscience. Face aux peurs identitaires, elle rappelle une évidence simple. Aucune foi, aucune origine, aucune conviction ne peut, en République, retirer à quiconque sa pleine citoyenneté. La laïcité française, parce qu'il y a d'autres types de laïcité dans le monde, fille des Lumières et de la Révolution, et en quelque sorte petite fille de la Réforme. Elle est devenue mère du pluralisme. Elle doit au protestantisme son exigence de conscience, aux Lumières sa confiance dans la raison, et à l'humanisme sa vocation universelle. La laïcité ne vénère aucun passé sacralisé. À l'image du protestantisme, elle se défie du sacré lorsqu'il se fige dans les institutions, mais elle élève la liberté de l'esprit au rang de principe suprême. Et si la laïcité reste parfois tant contestée qu'instrumentalisée par les extrémistes politiques ou religieux, c'est qu'elle rappelle sans cesse cette vérité essentielle. La liberté ne s'impose pas, elle se partage. La laïcité n'est pas un héritage que l'on conserve, mais une œuvre que l'on poursuit. Elle n'est pas un mot à répéter comme un mantra, mais un principe à faire vivre. Et c'est dans cet esprit, celui de la fermeté de Luther et de Rabault-Saint-Étienne, de la lucidité de Bayle et de Vinet, de la loyauté d'Allier et de Méjean, de la générosité de Buisson, que nous devons encore et toujours préserver la paix des consciences.
Radio FM Plus vient de vous proposer votre rendez-vous avec la Margelle.